Dans le sujet qu'on va voir aujourd'hui, nous sommes, grâce au Christ, inscrits dans le livre de vie. Puis, si ton nom est inscrit dans le livre de vie, gloire à Dieu, c'est la meilleure place que ton nom devrait être. Oui, il y en a qui visent à avoir le nom décrit dans les records Guinness. Mais le livre des records Guinness, même si tu as accompli un exploit dans ta vie, puis ton nom se retrouve là, il n'y a pas de conséquences. Surtout les conséquences éternelles d'avoir eu ton nom d'inscrit dans le livre Guinness. Mais dans le livre de vie, il y a des conséquences éternelles pour ceux que le nom est écrit là. C'est les bénédictions s'en viennent, la vie éternelle s'en vient pour ceux qui sont inscrits. Savez-vous que Dieu a un livre contenant le nom des sauvés? La Bible, elle nous en parle. Dieu, il y a plus qu'un livre. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs livres. Ça, c'est une façon de parler pour nous donner une image de ce que Dieu garde dans ses registres. Puis Dieu, il a une bonne mémoire. Il connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont ses enfants. Il dit, je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, etc. Toutes les promesses sont à ceux qui ont une étroite relation avec Jésus. Tout se passe à Jésus. La Bible nous dit que Dieu a plusieurs livres. Il y a des livres tenant les registres du nom des personnes qui ont vécu sur la terre et aussi de toutes leurs œuvres, de ce qu'ils ont fait étant sur la terre. Dieu garde tout dans ses registres, dans ses livres. Chaque individu qui a été conçu, qui est devenu un être vivant, humain, Dieu a écrit un livre pour l'histoire de chacune de ces personnes-là. Puis Dieu ne l'a pas inventé, le livre. Il l'écrit au fur et à mesure. On va voir des détails à propos de cela, du livre écrit d'avance, puis du livre qui s'écrit au fur et à mesure. Non seulement Dieu a un registre du nom de toutes les personnes qui ont vécu sur terre, plus toutes les œuvres que ces gens-là ont faites sont écrites, Dieu y oublie rien. Même un seul cheveu qui tombe, il est conscient, Dieu voit tout. Tout est écrit. On ne peut rien cacher à Dieu. Puis il y a un autre livre qui est le livre des noms des personnes qui sera permis d'entrer dans la vie éternelle. Il y en a plusieurs livres, on va le voir dans un passage plus tard, dans l'Apocalypse, il en parle, que Dieu a plusieurs livres. Des livres sur les vies des personnes, le livre des noms des personnes vivantes, puis le livre des noms des personnes qui vont avoir le droit de rentrer dans le ciel. La Bible fait allusion que Dieu recueille dans son livre ou dans ses livres l'histoire de la vie de chacune des personnes qui ont vécu ici. On voit ça dans Malachie 3:16, ça nous donne des idées, ces versets-là. En réalité, c'est révélé par le Saint-Esprit que les gens y ont eu ces connaissances-là puis qu'ils ont pu nous partager ces choses-là pour nous faire comprendre que, oui, Dieu tient des registres de tout. Dans Malachie 3:16, ça nous dit, « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Voyez-vous, dans ce passage-là, on voit que Dieu y écrit l'histoire des croyants, de ceux qui croient en lui, de ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui sont attentifs à ce que Dieu dit. Mais Dieu y est présent, il écoute leurs conversations, même leurs conversations. Quand on est en train de parler avec quelqu'un d'autre, des fois on pense on est juste deux, puis on se laisse aller, puis on dit des affaires qu'on ne serait pas supposé dire. Mais c'est tout écrit. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, tout ce que vous aurez dit dans vos chambres sera prêché sur les toits. Ce que tu dis dans l'oreille de quelqu'un d'autre, ça va être connu. Il dit, il n'y a rien de secret qui ne soit mis à jour. » Ça veut dire que ça ne donne rien d'essayer de se mettre des masques ou de faire semblant ou de se cacher quand on fait des affaires. Dieu a tout vu. Les anges de Dieu ont tout vu. Puis des fois, il y a du monde qui nous voit ici. Mais le pire, c'est que tout est écrit. C'est pour ça qu'il est important aussi, puis on le dit souvent, faut confesser nos péchés à Dieu. Faut pas cacher ça. Faut l'avouer qu'on est pécheur. Faut demander pardon au Seigneur. Puis le Seigneur nous pardonne. Parce que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Il nous dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner, puis te purifier. Ça veut dire que dans tout le livre qu'il va lire, il va lire toute ma vie avant d'être chrétien, puis ma vie aussi après d'être chrétien. Il y a bien des bouts qui sont pas si beaux que ça, mais je demande pardon au Seigneur pour... Tu peux plus revenir en arrière et essayer d'effacer les cassettes. Ce qui est fait, puis Paul il dit, oubliant ce qui est en arrière, puis courant vers ce qui est en avant. On continue à avancer, on demande pardon, on se relève, on marche avec le Seigneur. Mais pendant qu'on se parle, pendant qu'on jase, jase, Dieu y écrit ce qu'on dit dans son livre. Dieu tient compte de tous les pas de notre marche terrestre. Même une larme, t'as traversé une larme, il en tient compte, puis c'est écrit. Ils sont même recueillis, puis Dieu, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Puis tout ce que tu dis, ce que tu fais, même quand t'es dans la souffrance, tu pleures, Dieu le voit, puis il oublie rien de tout cela. Dans le psaume 56, le verset 8, le psalmiste dit, « Tu comptes les pas de ma vie errante. » Ça veut dire que Dieu, il est en train de dire à Dieu que Dieu comptait ses pas. Il sait exactement le nombre de pas qu'on a fait dans notre vie errante. Même dans notre vie, quand on marche à l'aveuglette, on sait pas où on s'en va, on vit tout croche, Dieu voit tout, tous nos pas. Puis il dit que Dieu les compte. Il n'a rien oublié, il sait le chiffre exact de tous les pas qu'on a fait dans notre vie. Puis il dit aussi que Dieu recueille mes larmes dans son outre. Il y a comme quand on verse des larmes, Dieu, il y a comme un outre, c'est une gourde. C'est comme s'il prend l'image que Dieu ramasse même toutes les gouttes de larmes qu'on a eues, nos souffrances, nos peines, nos difficultés. Puis Dieu est conscient de tout ce qu'on a vécu, puis il conserve le souvenir de ces choses. Puis il dit, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Bon, le psalmiste fait encore allusion que Dieu a un livre dans lequel il écrit tout ce que nous vivons, autant les pas dans l'égarement, autant que nos larmes dans notre repentance, puis dans notre vouloir de retour à Dieu. Dieu voit notre cœur, puis il nous connaît, puis il dit tout ça, c'est écrit dans ses livres, parce qu'il y a plus qu'un livre. C'est important de prendre conscience de cela parce que ça va nous aider, je pense, à mettre un mort à notre bouche, puis à mettre des... Tu sais, un guide pour tenir le cheval, wow! Pour le tirer, pour lui dire, wow, ralentis ta vie. Dieu voit tout ce qu'on fait, puis il se rappelle de tout. Parce qu'il écrit tout au fur et à mesure dans le temps que nous vivons notre vie. Dans un autre verset, ça nous dit que Dieu voyait notre vie entière avant même que nous la vivions. C'est fort. Puis plus que ça, dans ce verset-là, ça dit que Dieu, dans un sens, vu qu'il est éternel, il voyait la fin de l'histoire avant son commencement. Il a créé l'univers, puis il voyait d'avance tout ce qu'on était pour vivre, puis ça devient comme, dans un sens, un destin pour nous. Parce qu'on se dit, Dieu était déjà au courant de tout ce que je vais vivre. Puis il l'avait décrit dans son livre. C'est ce que ça dit dans le psaume 139, le verset 16. Le psalmiste, il dit, « Quand j'étais une masse informe », ça veut dire qu'on n'était même pas encore formé, on était juste peut-être le spermatozoïde qui a rencontré l'ovule, là. Le premier contact, t'as rien de formé, là, t'as même pas un bras de sortie, t'es juste l'ovule fécondé, t'es une masse informe, puis des yeux de Dieu nous voyaient. Puis dans son livre à Dieu, il dit, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est pas grand, ça. Tout à l'heure, on a chanté « Grand et puissant le Seigneur Dieu ». Mais il est grand et puissant. Il sait tout, il voit tout, il compte nos pas, il voit nos larmes, il les a toutes recueillies. Mais avant même qu'on ait au monde, on est encore d'un ovule fécondé, là. Puis Dieu voyait déjà la suite de notre histoire. Puis ça dit dans ce texte-là que c'est comme ça sera. Il dit, tes yeux me voyaient et sur ton livre est inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Fait que nous, on fait face dans ce monde comme une destinée. C'est une découverte à chaque jour de ce que nous vivons. Nous rencontrons des gens, nous faisons des choses, nous disons des choses, nous pensons des choses. Des fois, on désobéit à Dieu. Des fois, c'est pas juste des fois. Souvent, on désobéit à Dieu. Dieu voyait tout cela avant qu'on soit au monde. Il savait même le jour où il y aura quelqu'un qui viendra te parler de Jésus. Il voyait tout ça d'avance, puis c'est pour ça qu'il a préparé cela, lui, d'envoyer quelqu'un venir t'en parler pour que tu puisses l'accepter. C'est ça qui est le plan de Dieu pour aller chercher ceux qui croiront en lui. Dieu il a guidé tes pas, je te dis pas qu'il a guidé ta vie de péché, c'est pas Dieu qui mène notre vie de péché, mais il a guidé nos pas vers un destin de rencontrer quelqu'un qui nous met face à la vérité pour nous donner l'occasion de l'accepter. C'est ça qui fait qu'on est appelé par Dieu. C'est un appel. Il a mis quelqu'un sur notre route, c'était prévu d'avance. Puis Dieu, la cause qu'il nous aimait, il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour qu'on marche dans le Seigneur. Mais il a fallu qu'on dise oui puis qu'on l'accepte parce qu'il y en a beaucoup qui ont été appelés puis qui ont refusé. La Bible a dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la façon où ce qu'on interprète la parole en disant que on est des prédestinés. Donc si je suis prédestiné, j'ai pas besoin de rien faire. Même si je veux pas l'accepter, je vais être sauvé pareil. Si Dieu le veut, je vais être sauvé pareil. C'est lui qui décide, puis c'est lui qui va le faire, puis que moi, j'ai pas rien besoin de le faire. Ça, c'est une fausse interprétation. Parce qu'autant qu'il y a des versets qui nous disent que Dieu nous voyait d'avance, puis qu'il avait un destin, mais ça nous dit aussi qu'on est responsable de notre décision, puis on est poussé par la parole de Dieu à dire, accepte-le, Jésus, comme ton sauveur, repens-toi, puis reste, persévère dans les voies du Seigneur. Il y a des versets sur les deux côtés de la pensée. Ça veut dire que c'est Dieu se sert, que lui, il voyait l'histoire d'avance, puis dans son livre, nos jours, il les avait vus d'avance, qu'est-ce qu'on ferait, mais il avait quand même placé des événements dans notre vie pour qu'on rencontre son destin, de rencontrer quelqu'un pour accepter Jésus, puis que là, on fasse partie de ceux qui vont être sauvés. Merci, Seigneur, de nous avoir, d'être si grand, si puissant, d'avoir préparé cela pour que je puisse être là. Je suis reconnaissant. Parce que si j'aurais pas connu le Seigneur, je serais dans les ténèbres, je serais pas où ce que je m'en vais, puis je serais mort dans mes péchés sans le pardon de Dieu. Jésus, il avait encouragé ses disciples quand il était avec eux autres en leur disant que leur nom est inscrit dans le livre des sauvés. Dans Luc 10, 20, Jésus parlait avec ses disciples et dit, puis là, il venait d'envoyer ses disciples pour aller chasser, pour aller répandre la parole, puis les disciples étaient tout contents de voir que les démons étaient soumis en son nom. Puis Jésus dit, réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt que votre nom y est inscrit dans les cieux. C'est le plus important, que notre nom soit inscrit dans le ciel. Gardons la foi. Jésus a dit ça à tous ses disciples, même Judas qui était là. Son nom y est inscrit dans le ciel, jusqu'au moment où Judas a renié Jésus. On va le voir que même si notre nom est inscrit, il est possible que ce soit effacé. On va le voir dans des versets un peu plus loin. Puis c'est pour ça qu'il faut pas prendre les choses comme acquises. Oui, on les garde par la foi parce qu'on le sait et qu'on veut pas lâcher le Seigneur. Mais pensons pas qu'on peut se permettre n'importe quoi, puis que là, on vivra dans le péché, puis ça sera pas grave. La parole de Dieu est claire que ceux qui combattent avec Jésus pour son évangile, ceux qui ont cru en Jésus, puis qui se sont engagés à le suivre, puis qui marchent avec le Seigneur dans l'œuvre du Seigneur, mais leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Dans Philippiens 4:3, ça nous dit, « Et toi aussi, fidèle collègue, Paul est en train de parler à un collègue qui était dans la ville de Philippe, dans l'église de Philippe, il dit, « Toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et avec mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. » Voyez-vous, quand tu es un compagnon d'œuvre de Jésus, ça veut dire que tu travailles avec Jésus, tu es un disciple de Jésus puis tu travailles avec Jésus, tu es au service du Seigneur. Inquiète-toi pas, tu es avec Jésus. Ton nom est inscrit dans le ciel, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Comme je vous disais tantôt, il y a plusieurs livres. Il y a le livre des vivants, de ceux qui ont vécu sur la terre. Il y a des livres pour écrire leur histoire de vie. Puis il y a le livre de vie qui est le livre des noms inscrits pour entrer dans la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Tous ceux qui sont avec Jésus, le nom est inscrit dans le livre de vie. C'est la seule manière d'être inscrit. Faut que tu y ailles à Jésus. On va le voir dans un beau passage dans l'Apocalypse à la fin. Faut que tu marches avec le Seigneur, tu travailles avec le Seigneur, puis tu meurs pour le Seigneur. Pas question d'abandonner le Seigneur. On suit le Seigneur. C'est notre maître, c'est notre guide, c'est notre Seigneur. Fait qu'il y a un Seigneur, puis nous, on est ses disciples. On le suit. On le suit. Puis on lâche pas. Puis on garde la foi. Puis notre nom est inscrit, puis on va rentrer. Quand on a chanté, quand les saints y entreront, c'est à cause que notre nom est inscrit qu'on va rentrer. Merci, Seigneur.
Amen.
Oui. Même au temps de Moïse, là, on parle de Jésus en parlant du livre de vie, là, mais dans le temps de Moïse, c'est même avant les psalmistes, c'était 1500 ans avant Jésus. Au temps de Moïse, il était conscient qu'il y avait un livre de vie. Il savait qu'il y avait un livre de vie. Puis dans un moment de découragement, Moïse, il était découragé de voir le peuple. Moïse s'en va chercher les tables de pierre à la montagne, il revient en bas. Puis les peuples d'Israël s'étaient détournés de Dieu puis s'étaient fait un veau en or. Là, Moïse, il était fauché. Il a cassé le sceptre de pierre. De ce que Dieu avait écrit, les 10 commandements, avec son doigt direct, ses roches. Puis, il a cassé le kit. Puis, Moïse, il était découragé, là. Puis, il a demandé à Dieu d'être effacé du livre de vie. Si Dieu voulait pas le pardonner, là, efface mon nom du livre de vie. C'était un moment difficile que Moïse a vécu, mais c'était le point que je veux, pourquoi j'emmène ce verset-là, c'est pour nous faire prendre conscience que l'idée d'un livre de vie existait même dans ce temps-là. Que Dieu a un livre pour ceux qui vont être sauvés. Dans Exode 32, les versets 31 à 33, ça nous dit, « Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Oh, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. » Là, il était découragé. Là, il dit à Dieu, il est en train de dealer avec Dieu, puis il dit, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » C'est comme s'il était en train de mettre de la pression dans sa prière, puis il dit, « Seigneur, ils sont dans le péché, je le vois, c'est grave, il n'aura jamais dû faire ça, mais pardonne-leur, donne-leur encore une chance, sinon enlève-moi de ton livre de vie, je suis plus capable. » C'est ça qui était un peu l'idée de ce que Moïse vivait. Puis Dieu a répondu à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Fait que l'idée d'être inscrit dans le livre puis d'être aussi effacé du livre existait même dans le temps de Moïse. que Dieu a un livre pour les personnes sauvées, puis que son nom à Moïse, Moïse avait l'assurance que son nom y était inscrit parce qu'il marchait dans la foi. Puis là, il dit, enlève-les. Dieu dit, j'enlèverai pas ton nom, je vais enlever le nom de ceux qui pêchent contre moi. Fait que l'ensemble de l'humanité, sans le savoir, vu qu'ils marchent dans le péché sans se repentir, sont dans une position de se faire effacer le nom du livre de vie, puis il sera pas là, le nom. Pourquoi? Parce qu'ils se repentent pas. Ils vont pas à Jésus pour être pardonnés. Le nom sera pas inscrit dans le livre de vie. Juste les disciples, que Jésus a dit à ses disciples, réjouissez-vous que votre nom est inscrit. Amen. Puis merci Seigneur, c'est encore pour aujourd'hui. Tant qu'il est pas revenu, on est en, la porte de la grâce est encore ouverte. On est à l'an de grâce 2017. La porte est encore ouverte, mais il faut se dépêcher à aller à Jésus puis d'accepter comme notre sauveur, puis de rester fidèle au Seigneur, pas faire partie de ceux qui pêchent pour s'éloigner du Seigneur puis se faire enlever le nom, comme c'est dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. La Bible nous parle de ceux qui, par méchanceté, se réjouissent des souffrances des autres, qui seront effacés du livre de vie. Et on voit ça dans le psaume 69, les versets 26 à 28. Dans ce psaume-là, il était prophétique, parce que dans ce psaume-là, ça parle ça parle à propos de Jésus. Les apôtres ont pris des passages là-dedans pour amener ça, que ça parlait de Jésus dans ce psaume-là plus haut. Puis là, comme par révélation de Dieu, vu que ça un peu plus haut dans ce psaume-là, ça parle de Jésus, ces textes-là pourraient parler de Jésus et de son Église. Parce que Jésus a été désigné par Dieu pour être frappé par Dieu. Hein? On voit ça qu'il a été frappé pour nos péchés. Puis quand tu le regardais, il n'y avait ni éclat pour attirer nos regards. Puis c'était comme s'il avait l'air d'un gars frappé par Dieu et humilié. C'est un gars que Dieu faisait tomber sa colère sur Jésus. Quand il est mort, Jésus, c'était la colère de Dieu qui a fait. C'est pas les mains des criminels qui a tué Jésus. C'est la colère de Dieu, puis la cause de nos péchés, il fallait qu'il paye de la mort, puis la mort, mais c'est le jugement de Dieu qui était tombé sur Jésus. Donc, dans les prophéties, puis dans l'accomplissement de ces choses-là, ça parlait que Jésus serait le gars désigné pour être frappé par Dieu, puis en plus, Jésus a dit à ses disciples qu'il va frapper le berger, puis les brebis seront dispersées. Puis une autre place, ça dit que nous, on est destinés à passer dans le même chemin que Jésus, qu'on est appelé à souffrir, qu'on est appelé à avoir des problèmes à cause que nous sommes des suiveurs du Christ. On est appelé, on n'est pas plus grand que le maître, on est appelé à vivre les mêmes choses que le maître. Fait que, prophétiquement, ce verset-là, vous allez voir qu'il pourrait nous être appliqué à Jésus et à ses disciples. Il dit, le psalmiste, par le Saint-Esprit, il dit, « Car il persécute celui que tu frappes. » Il parle de certaines personnes qui sont en train de persécuter celui que Dieu frappe. Qui est celui que Dieu frappe? C'est Jésus. Il raconte, en parlant encore de cette même gang de personnes-là, il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Qui ça que Dieu blesse? C'est les ceux qui sont blessés à cause de Dieu, à cause du royaume de Dieu. Puis Dieu, c'est pas que Dieu veut ça, mais il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu frappe principalement ceux qui lui appartiennent pour le serrer à vis, pour les redresser, pour les amener à la suite. Puis qu'il y a du monde qui sera, il persécute celui que Dieu frappe. Puis c'est le même monde-là méchant. Il raconte les souffrances de ceux que Dieu blesse. Voyez-vous, prophétiquement, ce passage-là, c'est que les gens méchants sont contre ceux qui sont au Seigneur. À ceux qui sont contre, ils sont contre ceux qui, que Dieu aime, que Dieu châtie. Là, ça nous dit comme conséquence au verset 27, le psalmiste dans sa prophétie dit, ajoute des iniquités à leur iniquité et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé du livre de vie puis qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est qu'il y a des gens méchants qui font du mal à ceux que Dieu a un focus sur eux autres, Jésus, ses disciples. Dieu nous aime, Dieu nous corrige, puis là, les gens se réjouissent des choses qu'on vit. Au lieu de se joindre à nous pour se repentir puis de joindre la famille de Dieu, ces gens-là se moquent, persécutent, font du mal. Mais là, le psalmiste, prophétiquement, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui parle. Ajoute des iniquités à leur iniquité. Au lieu de leur pardonner, là, que le péché soit abondant pour qu'il n'y ait point part à la miséricorde. Puis que ça dit que le nom soit pas inscrit dans le livre de vie. Qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Le livre de vie contient le nom des justes. Qui sont les justes? Ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Parce que nous, on était de leur nombre. On marchait de la même manière que les autres. On se moquait des chrétiens. Peut-être pas tous les chrétiens sont moqués des chrétiens, mais beaucoup de chrétiens vivaient comme tout le monde, puis se moquaient de Jésus, puis on faisait des jokes avec ça. Puis on parlait pour abaisser Jésus, puis on utilisait son nom en vain. On l'a offensé à tour de bras, puis on a désobéi à sa parole à tour de bras. On faisait partie de ceux qui méritaient le châtiment. Notre nom n'était pas inscrit. Il a été inscrit à cause du pardon de Dieu. Puis là, on est inscrit dans le livre des justes, dans le livre des justifiés, déclarés justes par Dieu. Dans l'Apocalypse, nous voyons une des récompenses d'un vainqueur. Aux yeux de Dieu, là, Dieu, là, il sait que tout le monde est dans le péché. Mais là, il est en train de parler à une église. Puis là, il est en train de dire que là, les membres de cette église-là manquaient le but. Ils marchaient pas selon ce que Dieu s'attendait d'eux autres. Puis là, il dit, vous êtes perdus, là, vous êtes sur le chemin d'être perdus. C'est ça que vous lire le passage. Mais il leur dit de se repentir dans ce verset-là, puis il leur promet une récompense. Dans sa récompense, dans Apocalypse 3:5, ça dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est en train de nous parler que si nous sommes dans l'Église du Seigneur et que nous marchons pas selon les voies du Seigneur, il y a un risque que ton nom soit retranché. Si tu abandonnes le Seigneur, si tu négliges dans ta communion le péché est là, puis tu fais fi de cela, de la désobéissance, puis tu fais exprès, hein, puis tu te livres dans ton péché sans avoir de repentance, puis de vouloir lâcher ta vie de péché, il y a un risque que tu ne rentres pas, que tu ne sois plus inscrit dans le livre, puisqu'il dit c'est le vainqueur que j'effacerai pas son nom. Fait que ces personnes-là, ils ont été avertis par Dieu qu'il y avait un risque de perdre leur salut. Mais en plus de ça, Dieu dit, c'est rien que celui qui il va se repentir puis qui va obtenir la victoire de changer de vie. T'es rendu rétrograde, mais tu peux revenir au Seigneur. Tant que t'es vivant, tu peux revenir. Mais il dit, faut que tu changes de vie. Faut que tu te repentes. Puis là, il dit, j'effacerai pas ton nom. Fait que ce verset-là, autant qu'on peut le voir, oui, c'est épeurant, mais on peut le voir aussi. Merci, Seigneur, de cette ouverture que tu as de pouvoir me redonner une autre chance. Même après que je me suis rebellé en tant que chrétien, puis que je serai tout croche dans ma vie, Dieu nous avertit qu'on a encore à se repentir si on veut pas que notre nom soit effacé. C'est que Dieu, il est patient, puis il nous donne encore d'autres chances de se repentir. Puis là, il dit, Repens-toi, arrête de désobéir, obéis à ma parole, consacre-toi pour Jésus, pour être un combattant pour l'Évangile, pour marcher dans mes voies d'une manière intègre. Marche dans mes voies, reviens dans le bon chemin. C'est ça qu'il est en train de dire à cette église-là. Puis j'effacerai pas ton nom du livre de vie. Voyez-vous, autant que on pouvait croire que notre nom est inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde, mais autant que notre nom peut disparaître de ce livre-là. C'est important qu'on marche avec la crainte de l'Éternel, qu'on soit dans un mode de vie, là, à rechercher un mode de vie qui plaît à Dieu, pour pas l'offenser, parce que même si t'es chrétien, tu peux être encore en train de faire fausse route. Mais ce que je trouve super, c'est que Dieu donne encore une chance toujours à se repentir. Tant qu'on est vivant, on peut se repentir. Puis l'autre point, c'est que quand il inscrit ton nom, mais en plus de pas juste inscrire ton nom dans le ciel, Jésus lui-même va confesser notre nom devant son Père et devant ses anges. C'est quelque chose. Jésus l'avait déjà dit à ses disciples sur la terre. Il dit, si on le confessait, le Seigneur devant les hommes, que Jésus lui aussi était pour confesser notre nom devant son Père et devant ses gens. Mais si on le renie, il va nous renier. Qu'est-ce qu'on veut entendre quand on va arriver à l'autre bord? On veut-tu entendre? C'est beau, Daniel, t'as été fidèle. C'est ça qu'on va entendre. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Où est-ce qu'on va entendre? Daniel, t'es ainsi, t'es ainsi. How? Aïe, aïe. Il faut faire attention, parce que il y a plus que d'un passage, je les ai pas sortis, c'était pas le sujet, mais il y en a des passages où ce qui parle, qui va dire out à du monde qui était avec lui. Comme par exemple, ceux qui avaient reçu les talents. Il y en a un qui n'avait cinq, il y en a un qui n'avait deux, il y en a un qui n'avait un. Les autres, ceux qui n'avaient cinq, puis qui n'avaient deux, ils ont fait multiplier, t'as rendu à dix, l'autre qui n'avait deux, t'as rendu à quatre. Celui qui avait reçu un talent, lui, il l'avait enterré. Ça nous dit, à la fin de la parabole, il fait rendre des comptes, puis il dit, méchant serviteur, t'aurais pu au moins mettre ça à la banque, t'aurais fait de l'intérêt. Enlevez-y son talent, donnez-le à celui qui en a dix, puis le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Celui qui marchait en enterrant sa vie, puis pas vouloir servir le Seigneur, il se fait enlever même ce que Dieu lui avait donné, puis il se fait jeter dehors. Voyez-vous, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher, garder le contact avec le Seigneur, puis de persévérer jusqu'à la fin dans la foi au Seigneur. Ceux dont le nom est inscrit dans son livre bénéficient déjà sur la terre d'une relation intime avec Dieu. Puis en plus, on reçoit des révélations de Dieu sur les événements terrestres. Dieu s'occupe de ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont sauvés. Il est avec nous, il écoute nos prières, il nous bénit, il prend soin de nous, puis il nous guide, il nous conduit, on lui appartient, on est important pour lui. Dans Apocalypse 17:8, c'est pour soulever cette idée-là que j'emmène ce passage-là, parce qu'il nous parle encore du livre. Ça nous parle d'un événement où il va y avoir un antéchrist qui va s'élever, un immense système politique qui est appelé la bête, puis que ça va être formé de 7 nations puis 10 rois qui vont régner sur la terre à la fin des temps. Puis ça, c'est la bête à 7 têtes et 10 cornes qu'on voit dans l'Apocalypse au chapitre 13. Puis que cette bête-là, c'est comme si c'était un empire de royauté qui existait auparavant, qui n'existait plus, puis qui réapparaît. Comme ça serait l'Empire romain, par exemple, qui reviendrait en force devant nos yeux. Puis ça nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 17, le verset 8, « La bête que tu as vue était, elle n'est plus, et qu'elle doit monter de l'abîme puis aller à perdition. » Puis ça nous dit, « Les habitants de la terre, ceux qui vont être vivants pendant que ce système politique-là va s'élever sur la terre, Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Là, ça nous parle du livre de vie, mais ça nous parle des gens qui faisaient pas partie des inscrits, parce qu'il y a, il y a des gens qui sont pas dans le livre de vie. Dieu voyait d'avance que ces gens-là n'accepteraient pas Jésus, ceux qui sont pas inscrits. C'était des gens qui marchent dans l'aveuglement, qui marchent dans l'égarement, puis qui marchent de façon à ce qui déplaît à Dieu, fait qu'ils sont pas sauvés. Fait qu'il nous dit dans ce passage-là que les gens non sauvés, quand ce système de la bête-là va apparaître, ils vont s'étonner en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, qu'elle reparaîtra. Eux vont être étonnés. Ça nous dit que eux vont être étonnés. Mais nous, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, on ne sera pas étonnés. Pourquoi qu'on ne sera pas étonnés? Parce qu'on marche dans les révélations de Dieu. On le sait déjà qu'elle va revenir, que ce système mondial-là, qui va contrôler peut-être toute l'Europe dans cette période-là, il va revenir, il va reprendre comme une coalition qui va revenir, puis ça va ressembler à l'ancien Empire romain qui était là, puis qui n'était plus, puis qu'il va revenir. Puis que nous, on ne sera pas étonnés, mais que le monde non sauvé, le monde non inscrit dans le livre de vie, vont être étonnés de voir ça réapparaître. Puis nous, pourquoi que nous, on ne sera pas étonnés? Parce que nous, nous marchons dans les révélations de Dieu. À cause qu'on appartient à Dieu et que notre nom est inscrit dans son livre, il nous donne les instructions, les révélations, il nous avertit d'avance. La Bible nous enseigne là-dessus. On a plein d'informations. On ne sera pas étonnés, mais quand on voit ça, on va dire, ça devait arriver. On avait déjà été avertis. Notre communion avec Dieu a permis qu'on puisse obtenir une assurance, une confiance qu'on est avec le Seigneur, puis on n'est pas étonné, on le savait d'avance, puis on en parlait avant que ça arrive. Voyez-vous que le fait que tu es en relation avec Dieu, ce verset-là est en train de nous dire que nous, on bénéficie des révélations de Dieu, que Dieu nous prépare, puis nous enseigne d'avance, puis nous amène. Faut qu'on soit d'une certaine pensée pour pas être apeuré, puis perdre les pédales, puis lâcher la foi, ou, il faut qu'on soit préparé, puis c'est ça que le Seigneur va faire, il va nous préparer. Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Un jour, tous les humains qui ont été conçus sur la terre ressusciteront. Tout le monde va ressusciter. Depuis Adam et Ève, jusqu'au dernier qui va venir au monde sur cette planète. Tout le monde va ressusciter après la mort, bien entendu, puis vont apparaître dans un corps devant Dieu. Puis ils vont se tenir devant le trône de Dieu, puis chacun va être jugé selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres de Dieu. Et ça, je disais au début du message, que Dieu, il y a un livre que toutes nos œuvres sont écrites. À la fin de l'histoire humaine terrestre de la terre, tout le monde qui a d'humains sur la terre vont ressusciter, puis vont être devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. C'est ce que ça nous dit dans Apocalypse, chapitre 20, verset 12. L'apôtre Jean, quand il a eu la vision dans l'Apocalypse, il dit, « Je vis les morts. » Là, il voit les morts. Les morts, c'est ceux qui sont pas sauvés, mais qui sont morts dans leur péché. Ils sont appelés les morts. Nous, on est appelés les vivants. Il dit, « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Ça veut dire que, peu importe comment ce qu'une personne s'appelle, peu importe ce qu'elle pensait, peu importe ses convictions, peu importe sa religion, peu importe sa race, peu importe sa langue, peu importe, il n'y a rien qui importe. La seule affaire que Dieu considère, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Puis Dieu a dit qu'il va ressusciter tout le monde. Fait que le gars qui a dit toute sa vie, « Oh ben moi, quand je meurs, quand je vais mourir, je vais être enterré, puis ça finit là. » Même si un gars croit que ça s'arrête là, mais il va avoir des surprises parce que la Bible nous dit que tous les morts vont être devant le trône. Il va en avoir du monde. C'est pas comme qu'ils disent, il va y avoir du monde à la messe parce qu'il n'aura pas de messe. Ça va être tout le monde depuis le début de la création, des milliards de personnes. Actuellement, il y a quasiment 7 milliards dépassés. Imaginez, il y en a du monde. Mais depuis le début de la création, c'est des, je sais pas combien, dizaines de milliards qu'il va y avoir. Il va y avoir du monde devant le trône de Dieu. Ça nous dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Fait qu'on sera pas tous la même grandeur, là, au bord. On va avoir tous, peut-être, conserver notre apparence, je sais pas. Des livres furent ouverts. Là, c'est le temps d'ouvrir les livres des registres. Les livres que Dieu tient, tous les registres de tout le monde. Et un autre livre fut ouvert. Il n'y a pas juste le livre des registres. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ce que je vous disais au début, que Dieu a un livre, ou des livres, il y a peut-être un livre par personne, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de livres, mais tout ce qu'on a fait est écrit dans ces livres-là. Fait que quand les gens vont comparaître devant Dieu, à la fin, les livres vont être ouverts, puis les gens vont être jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le passé, il est écrit, puis il n'y a pas moyen d'effacer ça, à part qu'avec le sang de Jésus. Le pire qui peut arriver, une personne, là, écoutez-moi bien celle-là, le pire qui peut arriver une personne, c'est que ton nom ne soit pas écrit dans le livre de vie. Ça, c'est le pire. Parce que dans l'Apocalypse, là, ça nous dit que si ton nom n'est pas écrit, tu vas être jeté dans le lac de feu, le lac éternel, l'étang ardent de feu et de soufre. Ça veut dire, si ton nom n'est pas écrit, ça veut dire que tu es mort dans tes péchés. Puis il a fallu que tu rendes compte de chaque parole, de chaque pensée, de chaque action que tu as faite pendant que tu étais sur la terre, parce qu'ils ne sont pas pardonnés tes péchés. Puis ils sont tous écrits dans le livre. Là, tu arrives pour rendre compte, parce qu'on va avoir des comptes à rendre. Il va nous juger. Bien, on parle pas des chrétiens, on parle des morts. Parce que, si Dieu le veut, je vais vous faire une étude dans pas long sur après la mort pour les chrétiens, puis après la mort pour les non-chrétiens. Il y a des versets qui parlent de ces affaires-là, puis c'est intéressant d'aller chercher. Ça nous rassure ou ça peut mettre la frousse. Mais le pire, dans Apocalypse 20, le verset 15, ça dit, quiconque, ça veut dire, peu importe comment tu t'appelles, Dieu n'a pas de considération de personne. Pas à cause que tu t'appelles Bill Gates puis que tu es millionnaire sur la terre, que tu as plus d'avantages qu'un autre, ou c'est pas à cause que tu es Daniel Poulain, que tu n'es pas grand-chose, tu es un simple chauffeur d'autobus, tu n'auras pas plus de droits non plus. Tu n'as pas de différence devant Dieu. Quiconque, le seul critère que Dieu regarde, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Aïe, aïe. On veut être inscrit dans le livre de vie. Puis Jésus a dit à ses disciples, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le ciel. C'est une joie quand tu es chrétien, tu sais que tu marches par la foi, tu sais que tu es sauvé, tu t'arranges pour rester avec le Seigneur. Y a-t-il un amen à cela? L'accès du ciel, ce qu'on appelle le paradis, la vie éternelle, est ouverte seulement à ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Puis pas n'importe quel livre de vie. Dans ce verset-là, il est appelé « inscrit dans le livre de vie de l'agneau ». Ça spécifie c'est qui est la porte pour entrer, ton nom soit inscrit dans ce livre-là. Dans l'Apocalypse 21-27, ça nous parle de la ville sainte, puis de la Jérusalem céleste qui est appelée la ville sainte, la ville de Dieu, la ville de lumière, le paradis de Dieu. Il y a tous les significatifs de ça, là. C'est écrit, il n'entrera chez elle, dans cette ville-là, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia! La question qu'on doit se poser aujourd'hui, ton nom, y es-tu inscrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est la seule affaire qui est importante. Parce que le jour qu'on va se présenter devant Dieu, ton 100 000 piastres que tu as à la banque, ça vaut rien. Ta maison, ta grosse maison, ton gros char, ton boat, ton skidoo, tes motos, peu importe ce que tu as comme bien, ou ta belle femme que tu as, ou tes enfants, peu importe ce que tu as ou ce que tu es, ou ta job que tu as, ta position sociale, peu importe ce que tu es ou ce que tu as, ne comptera pas. La seule chose qui va compter quand on va arriver à l'autre bord, on va être mort, puis ressuscité. T'as plus rien, tout est resté sur la terre. T'as rien emmené avec toi. Tout ce que t'as, c'est ta vie. Puis comme Jésus a dit, à quoi ça sert de gagner l'univers si tu perds ton âme? La seule chose qui est importante, ton nom est inscrit dans ce livre-là. Ça, c'est important. Puis c'est le livre de vie de l'agneau. Faut que tu passes par Jésus, qui est l'agneau de Dieu, pour être inscrit dans ce livre-là. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul chemin, Jésus l'a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Tu n'as pas le choix. Jésus, c'est la porte. Puis il dit, « Les brebis rentrent par moi, puis elles trouveront du vert pâturage. » Mais il faut que tu passes par Jésus. Puis là, si tu te repens, tu lui demandes pardon. Puis tu crois qu'il est mort pour toi, il va te pardonner, puis il va te donner le cadeau d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. C'est un statut que tu vas obtenir, puis ce statut-là, c'est la chose la plus importante de tout le reste, même s'il nous donnera rien d'autre. Juste le fait de savoir qu'on est un sauvé, puis qu'on va rentrer dans la vie éternelle, ça vaut de prendre une décision pour Jésus maintenant. De dire au Seigneur, là, j'ai assez niaisé, j'ai assez marché dans le péché, puis de pensant que personne ne le sait, là. Mais ça, c'est, je l'ai dit tantôt, dans son livre, toutes tes actions sont écrites. Tu peux pas cacher rien à Dieu. Faut que tu demandes pardon, puis tu restes dans cette attitude-là tout le reste de ta vie. De continuer à vivre sous le sang de Jésus, de marcher par la foi en Jésus, puis de servir Jésus. C'est le seul chemin. Garde ce chemin-là. Puis ceux qui veulent prendre la décision d'accepter Jésus, ou si quelqu'un dit, moi je veux revenir à Jésus, j'ai négligé ma communion, j'ai abandonné le Seigneur, je marche tout croche, je veux que ma vie, je veux être sûr que je marche pour le Seigneur. Puis le Seigneur, lui, il pardonne. Son sang purifie ta vie, il lave. Ton livre, là, il va y avoir des pages c'est des pages en blanc, c'est effacé. Tout ce qui est pas bon est effacé quand tu viens à Jésus. Fait que, c'est son sang qui nous purifie de tout péché. Tout ce qu'on aura dû rendre compte, c'est Jésus qui a payé à notre place pour nous déclarer justes, pour qu'on soit inscrit dans le livre des justes. On va faire une prière pour donner l'occasion d'accepter Jésus comme ton sauveur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne, je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si quelqu'un, à quelque part, a fait cette prière-là puis a accepté Jésus comme sincèrement devant Dieu, la personne est pardonnée. T'es pardonné. Ton nom y est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Tu vas faire partie de ceux qui sont sauvés. Mais marche par la foi. Lâche pas le Seigneur. Persévère jusqu'à la fin dans ta vie. Laisse-toi pas voler. Marche avec le Seigneur, puis un jour, tu vas arriver là au bord, puis il va te dire, bon et fidèle serviteur, ton nom est inscrit, rentre dans la joie de ton maître. Amen.